Voici un fait divers datant d'avant-hier et relaté sur le site de LCI. Sophie, la femme de Jonathan Guyot, soupçonnait d'avoir volé une cinquantaine de kilos de cocaïne en juillet 2014 au 36 quai des Orfèvres, a été interrogée ce vendredi par le tribunal correctionnel de Paris. Poursuivie notamment pour recel, la prévenue a répété s'être retrouvée dans cette affaire sans avoir jamais, je cite, rien demandé à personne. Son mari, lui, continue de clamer son innocence. Elle l'a dit à la barre, elle aimerait, à l'issue du procès, quitter la salle et ne plus avoir de doute sur la culpabilité de son mari. Je trouve la dernière phrase de cette femme excessivement dure. Bien que son mari clame son innocence, elle est arrivée à avoir elle-même des doutes sur sa culpabilité. Le doute et le fait qu'elle ait pu douter sera peut-être ce qu'il restera en elle et dans sa vie de couple, même si le juge innocente son mari. Ce matin, je vous propose de réfléchir sur une des dernières apparitions de Jésus avant sa crucifixion. Nous allons nous intéresser à un autre procès, celui de Jésus devant Pilate, gouverneur romain en Judée. Ce procès est présent dans les quatre évangiles. J'ai choisi de le voir dans l'évangile de Marc, au chapitre 15. Jérusalem, 33 ans après Jésus-Christ. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Je le dis toi-même, » répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit. « Eh bien, tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le ! Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux cependant crièrent de plus en plus fort, « Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. J'arrête ici la lecture. J'aimerais vous montrer deux points majeurs de ce texte, et je découperai donc mon message ainsi. Premièrement, nous verrons la grâce révélée par Jésus à Pilate. Et deuxièmement, nous analyserons les doutes de Pilate dans son rôle de juge. Le déroulement du procès est un non-sens. En tant que lecteur extérieur à l'action, il est frappant de voir que rien ne se passe comme imaginé. Pilate lui-même n'y comprend rien. Au verset 5, mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit rien. Un verset qui explique bien la situation, j'y reviendrai dans ma seconde partie. Pour bien aborder ce texte, il convient d'en comprendre le contexte. Jésus, depuis 3 ans, parcourt la Judée, et particulièrement Jérusalem, pour annoncer du changement. Il fait des miracles, il coache un groupe de disciples, il remet en place les enseignants de la loi. c'est-à-dire les responsables religieux juifs de l'époque. Mais voilà, il a trop attiré les foules, il s'en est trop pris à l'autorité religieuse en place. Les chefs des prêtres l'ont arrêté et l'ont jugé lors d'un procès devant le grand conseil juif, le Sanhédrin. La Judée, à cette époque, est sous contrôle romain. Rome s'était accaparé le pouvoir de juger de la peine de mort. Aucun autre système n'avait le droit de juger quelqu'un à la peine de mort. Le juge désigné par Rome pour trancher sur cette question était le gouverneur, le préfet de Judée, Pilate. Les chefs des prêtres, voulant se débarrasser le plus efficacement possible de Jésus, l'amenèrent à Pilate afin qu'il le condamne à mort. L'apôtre Luc relate dans son évangile le motif de la condamnation avancée par la partie civile, les prêtres. Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur et il déclare qu'il est le Messie, le roi. Le résumé des épisodes précédents étant terminé, abordons la première partie de ce message. Le procès démarre ainsi. Pilate demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Cette première question est lourde de sens. Toute la condamnation repose sur le crime de lèse-majesté, où Jésus se dirait roi politique des Juifs à la place de César, à la place de l'empereur romain. En soi, c'est une rébellion, un soulèvement contre l'autorité politique et militaire. Jésus répond, tu le dis toi-même. Je pense qu'au jeu du ni oui ni non, Jésus est un compétiteur hors pair. Jésus ne dit pas qu'il est roi. Jésus ne dit pas non plus qu'il ne l'est pas. Les chefs des prêtres disent de Jésus qu'il se prétend roi des Juifs. Pilate redit la même chose en les citant. Pour tenter de reformuler cette réponse de Jésus tout en gardant le sens de ses mots, je crois qu'il aurait pu dire « c'est ce dont l'on m'accuse. Et toi, qu'en penses-tu ? » Et vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il est roi des Juifs ? Comme Pilate l'entend, non, il ne l'est pas. Le pouvoir actuellement en place est détenu par Rome. L'empereur est le roi des Juifs. Il détient l'autorité politique et militaire. Jésus le savait, Pilate le savait, et même les chefs des prêtres le savaient. Jésus n'avait aucune prétention à gouverner qui que ce soit. Toute l'ambiguïté de la situation vient du fait que oui, il est aussi le roi des Juifs. Au sens spirituel, il est pleinement le roi des Juifs. C'est précisément parce qu'il annonçait publiquement l'être que les responsables spirituels, religieux, ont une dent contre lui. Pour faire simple, il prend leur rôle, leur prestige et leur boulot. L'autorité religieuse dans toute la Judée est tenue par ce groupe de chefs de prêtres. Parce qu'il est Dieu et le Messie que les Juifs attendent, Jésus est le roi spirituel des Juifs. Mais cette affirmation n'est pas condamnable par Rome. Les provinces romaines sont libres sur le plan spirituel, et de plus, la religion romaine n'est pas la religion. Le seul verset 2 pose toute l'intrigue du procès. Il dit à la fois « Pourquoi ?» ce procès a lieu, et à la fois pourquoi ce procès ne devrait pas avoir lieu. La réponse de Jésus amène le doute. Et Pilate, ce doute ne le quittera pas de tout le procès, mais je garde ça pour ma seconde partie. Avant cela, poursuivons l'analyse de ce qu'a fait Jésus. En réalité, Intéressons-nous à ce que Jésus n'a pas fait. Verset 3. Eh bien, tu ne réponds rien, Pilate ? En effet, Jésus ne dira plus rien du procès. La défense se sera contentée d'une réplique adressée au juge. Tu le dis toi-même. Un peu léger comme argumentaire, n'est-ce pas ? Et si au contraire, ne rien dire était la meilleure option ? Nous lisons dans la question de Pilate au verset 4 que les chefs des prêtres avançaient une série d'accusations contre Jésus. Prenons la situation suivante. Travaillez sur un projet un peu tendu au travail. Dans ce projet, vous êtes dépendant du travail d'une autre équipe et réciproquement. Ce projet prend du retard et le responsable de l'autre équipe envoie un mail à l'attention de votre supérieur hiérarchique en commun, en masquant une partie de la vérité. Il n'en est pas fier de cette vérité et vous accuse directement du retard pris sur le projet et demande à ce que vous mettiez en place un plan d'action pour rattraper les dégâts sur le projet. Bien entendu, la réalité est tout autre et les torts sont partagés. Feriez-vous ? La tentation est grande de répondre le plus vite possible en exposant tous les détails, les manquements de l'autre équipe, afin de montrer que vous accuser de tous les torts est injuste. Il n'est pas question que votre responsable pense que ce projet a capoté à cause de vous. Dans son procès, les chefs des prêtres avancent plusieurs fausses accusations contre Jésus et ils se gardent bien d'expliciter la notion de roi des Juifs. En réponse à cela, Jésus ne dit rien. Au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit rien. Jésus va à l'inverse de ses accusateurs. Il les prend à contre-pied. Pourtant, Pilate n'est pas un expert de la loi juive. Pilate, c'est un politicien romain. Jésus, avec toute sa connaissance de la loi juive, n'aurait eu aucun mal à noyer le poisson, à expliquer la notion roi spirituel des Juifs et à convaincre Pilate que cet argument n'a rien à voir avec César. Ceci aurait fait capoter l'argument d'accusation principale du procès. Jésus, par son mutisme, répond au mal par le bien. Je m'explique. Pour arriver à leur fin, les chefs religieux font de mauvaises choses. Ils accusent sans fondement. Ils profitent de la non-connaissance de Pilate sur l'attente d'un roi spirituel juif. Ils cachent ou détournent la vérité. Jésus, lui, ne rentre pas dans ce jeu-là. Il n'accuse pas. Il ne cherche pas son intérêt en attaquant à son tour les chefs des prêtres. Jésus vient montrer à Pilate ce qui est au cœur de sa mission, la grâce. Sans rien espérer en retour, et surtout au détriment des chances, de ne pas être condamné. Jésus n'attaque pas, n'accable pas les chefs juifs. C'est cette grâce que les prêtres ne pratiquent pas en l'accusant. C'est cette grâce qui apparaît en filigrane de tout l'Ancien Testament et qui est martelée dans le Nouveau Testament. Entre ces deux parties de la Bible, Jésus. Christ vient montrer qu'il existe une manière de vivre différente. Une manière où la grâce et le pardon sont au centre. Pratiquer la grâce et le pardon envers les chefs religieux, Jésus, cela lui a coûté la vie. Et grâce à sa mort, tous les hommes accèdent à la grâce et au pardon de Dieu. Jésus, en annonçant et pratiquant ces deux choses, est mort sur de fausses accusations. Ainsi, il a fait basculer une relation compliquée entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament à une relation restaurée à lui. Dans cet état où le péché de l'homme ne vient plus peser sur le lien entre l'homme et Dieu, mais où l'homme est libre de faire le bien. Pour la personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, cette non-réaction est comme ces marches silencieuses que l'on voit après certaines affaires dans les médias. C'est un encouragement à venir, une invitation à s'intéresser à la vie de Jésus et à voir en quoi le message qu'il porte reste un message avant-gardiste, moderne et utile à notre société. Cette manière de vivre, les chrétiens sont appelés à la vivre, à garder au cœur de la vie quotidienne les pensées de grâce et de pardon. Nous nous sommes intéressés en particulier à l'attitude et aux paroles de Jésus. Dans la seconde partie de mon intervention, je vous emmène voir l'attitude et les paroles de Pilate. Dans tout le procès, Jésus ne va parler qu'une fois, une seule fois pour dire « Tu le dis toi-même ». Cette économie de grands discours montre à Pilate que la question n'est pas bête. Pilate met le doigt sur la clé de toute cette affaire. La réponse de Jésus est en réalité une réponse déguisée. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une manière pour lui de dire « Et toi, Pilate, qu'en penses-tu ?» Eh bien, Pilate, il est bien embêté par cette réponse. Un doute s'est installé en lui. Un doute qu'il ne le quittera pas, même au moment de prononcer la sentence de peine de mort. Tout d'abord, il y a cette affirmation au verset 5. Au grand étonnement de Pilate, Pilate est étonné de la grâce que manifeste Jésus envers ses attaquants. Comme nous l'avons vu dans la première partie, là où on attendait une défense argumentée pour démolir les accusations sans fondement, nous n'avons rien. C'est la première manifestation du doute de Pilate. La seconde est dans le contexte. Juste après cela, il se passe une scène surprenante. Le décor bascule. Voilà que nous parlons de relâcher un prisonnier comme c'est la tradition à Pâques. Imaginez-vous au tribunal et vous accusez votre voisin d'avoir volé les cerises de votre cerisier sur la branche qui malheureusement dépassait dans son jardin. Bref, une sale affaire. Le juge étant bien en peine de trancher sur le droit de propriété et d'usufruit du cerisier, vous fait la proposition suivante. Le juge propose de vous offrir 3 pots de confiture et l'affaire est close. Pensez-vous pas qu'il y a un problème dans le verdict ? N'était-ce pas au juge de juger et à l'accusé de payer ? Sous couvert de la tradition, Pilate tente de se débarrasser de cette affaire. D'ailleurs, vous pouvez noter que Barabbas, le criminel prévu dans le deal, est lui déjà jugé. Jésus ne l'est pas encore. La tradition de Pâques aurait très bien pu attendre que Jésus soit jugé. Pilate a des doutes et il vient de tenter une manœuvre maladroite pour ne pas avoir à juger avec ses doutes. Il qualifie cette manœuvre de maladroite, de ratée au regard de la réponse des chefs des prêtres. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'ils libèrent plutôt Barabbas. Pilate dit: mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? J'aime penser que Pilate est un érudit, un sage, même, car il était quand même gouverneur de la Judée. Pas rien, César lui fait confiance. Toutefois, sur ce coup-là, je pense qu'il a manqué une occasion de se taire. Les chefs des prêtres lui amenèrent Jésus avec pour motif de condamnation de se faire passer pour roi. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes, c'est le condamner à mort. Quelle réponse pouvait-il attendre de leur part ? Crucifie-le ! Crièrent-ils tous, verset 13, puis de nouveau verset 14. Cet épisode de négociation de la libération de Jésus ou Barabbas, cet épisode de la négociation de la libération de Jésus est le second élément de doute de Pilate. Il ne veut pas de cette affaire. Troisième élément, l'auteur nous dit que Pilate s'était rendu compte que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Difficile de ne pas douter des accusations qu'avancent les prêtres afin de le faire condamner. Le même passage, la même scène nous est racontée dans l'évangile de Matthieu. Il nous apporte une scène complémentaire qui a donné une expression qui est encore en vigueur aujourd'hui. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est son boulot de juger, surtout les condamnations à mort. Il ne peut pas simplement dire « je le condamne » et en même temps « mais c'est vous qui le condamnez ». En France, nous avons un système où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont séparés et ne peuvent pas exercer de pouvoir l'un sur l'autre. À Jérusalem, lors du procès, le pouvoir judiciaire vient de dire aux autres tenants des pouvoirs que le jugement est de leur responsabilité. Pilate vient de condamner à mort Jésus et n'a pas le courage d'affirmer ses opinions. Il s'est laissé porter par la pression ambiante. Le texte dans Matthieu dit clairement l'agitation de la foule augmentait. Il faut savoir que sa mission à Pilate, vis-à-vis de Rome, c'est de maintenir l'ordre. Le fait de se réserver le droit de vie ou de mort n'est qu'une partie de ce maintien de l'ordre. La tentative de neutralité de Pilate aura causé une erreur judiciaire. De plus, Jésus, par son mutisme, met Pilate dans une situation où il doit agir et choisir. Finalement, Pilate ne choisira pas, mais laissera les prêtres faire le choix à sa place. Puisqu'il n'a pas choisi à temps de libérer Jésus, la foule l'a contraint à choisir de le tuer. C'est le cas dès le moment où il demanda « Mais que dois-je faire avec celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Pilate n'a pas fait le minimum nécessaire vis-à-vis de ses doutes sur la réelle identité de Jésus. Il cède à la pression sociale, il cède au risque d'agitation. Il y a deux points que je crois bon de retirer de cette analyse de la réaction de Pilate dans cette affaire. Premier point, ce passage nous rappelle qu'il n'y a pas que des décisions simples dans la vie. Au regard de ce texte, je pense que plus elles sont difficiles et plus il est important de ne pas subir les choix réalisés, mais d'avoir une pleine maîtrise de nos décisions. Je me suis marié il y a bientôt 3 ans. Aujourd'hui, je suis heureux des décisions qui m'ont amené à ce que mon amie, devienne mon épouse. D'une part, c'était un choix totalement assumé, que j'ai pu faire sans aucune pression autour de moi. D'autre part, personne n'a choisi à ma place qui j'allais devoir épouser. Dans la même idée, la foi, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, fait partie de ces choix difficiles. Que ce soit pour faire le premier pas dans cette foi ou pour persévérer à la vivre, croire est un choix difficile. Pour autant, c'est un choix que nous devons faire et continuer d'assumer personnellement. Ce ne sont pas les autres, croyants ou non, qui pourront faire le choix à notre place. Dieu a établi une relation personnelle avec nous. Bien que nous ayons la chance de pouvoir la vivre en communauté et de nous encourager, le fait de croire est une démarche personnelle. Le second point porte sur les doutes. Si vous avez pris la peine de vous lever tôt un dimanche matin pour venir chanter et étudier la Bible, alors que vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous avez des doutes sur Jésus, ou que j'espère, après avoir lu ce texte, vous en aurez. Ne faites pas comme Pilate. Ne tentez pas de botter en touche parce que vous avez des doutes et que vous n'avez pas envie de les considérer. La société, notre société, n'est pas un environnement fertile pour ces doutes. Bien que cela change, je pense, ces dernières années, elle promeut encore du concret, du raisonnable, du visible. La foi n'a rien de cela. La foi, c'est espérer dans les choses que l'on ne voit pas. L'espoir n'est pas raisonnable. Ce que l'on ne voit pas n'est ni visible ni concret. Croire en Christ, c'est contre nature en l'an 30 et en l'an 2017. L'homme ne change pas. Si vous voulez croire, vous allez devoir avoir le courage d'accepter l'idée même de croire, d'accepter par la foi. Je parle de doute, je parle de courage. Pour autant, le Seigneur nous accepte tel que nous sommes, avec nos doutes, avec nos faiblesses. Quelques heures avant ce procès, Jésus s'était retiré pour prier. Cette prière n'était pas celle du courageux. Il était envahi par la crainte et l'angoisse. Il dit à ses disciples, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici, éveillés. » Si Jésus lui-même avait vécu la crainte, nous aussi, nous sommes en droit de la vivre. Nos doutes et nos craintes font partie de notre humanité. Dieu le sait. Pourquoi Jésus est venu prier le Père afin qu'il l'aide à cette épreuve qui approche. De la même manière, le Seigneur accepte que nous ayons des doutes, que par la prière, nous pouvons lui en parler. Et il nous aide à les dépasser. En conclusion, Jésus apporte un message novateur, avant-gardiste. C'est celui de la grâce et du pardon. Ce message nous invite à le vivre par la foi. Il nous invite à avoir le courage de le vivre, le courage de l'accepter et de le faire nôtre. Ce message est un message personnel. Dieu nous demande de faire ce choix et de ne pas rester dans la neutralité. Comme pour Pilate, rester neutre, c'est aussi faire le choix de ne pas croire. Finalement, que l'on soit croyant ou non, nous sommes encouragés par l'échec de Pilate à ne pas nous laisser porter par la société. Reconnaissons nos doutes, nos craintes, et demandons au Seigneur le courage de vivre nos doutes. Ayons et recherchons le courage